Lire dans le noir.
L'évangile de Jimmy, par Didier Van Kovelaert.
Disque numéro 5, chapitre 12.
C'est fou le bien que ça fait, une psychanalyse. Je n'ai pas eu l'occasion de me confesser à un prêtre, je ne peux pas comparer, mais je me sens aussi léger qu'après une heure de crawl. Nettoyé, dégrippé, tout neuf, libéré de ces pensées morbides qui m'encrassaient depuis mes lectures du matin. Je marche lentement dans la touffeur de Central Park, entre les seringues et les écureuils, longeant les drogués en manque recroquevillés dans les fourrés. Je m'efforce de détourner la tête pour ne pas me laisser attendrir. On m'a dit d'être discret jusqu'à nouvel ordre, de ne plus rien faire pour personne. J'obéis, je m'isole, me replie sur moi, et c'est moins difficile que prévu. Le docteur Entridge est un type formidable. Il m'a rappelé à 7 heures du matin, 10 minutes après mon message. Je lui ai expliqué la situation, j'ai dit que j'avais besoin d'aide. Il a répondu qu'il sautait dans un avion, qu'il serait à New York pour le déjeuner, m'a demandé où je voulais qu'on se retrouve. J'ai proposé le Boathouse, le premier endroit qui m'est venu à l'esprit. Les brunchs du dimanche avec Emma. Après un petit silence, il m'a dit que ça tombait bien, il descendait au Parker Méridien sur la 57e, derrière Central Park South, et m'a donné rendez-vous à l'hôtel vers midi. Je suis arrivé avec 2 heures d'avance, dans une espèce d'atrium en verre et miroir, où j'ai tenté de faire le point, assis dans un fauteuil en cuir dur au milieu des hommes d'affaires étrangers qui se croisaient, regard hagard ou absorbé, dans l'écho des talons sur le marbre. J'essayais de calmer mon imagination, mais je n'y pouvais rien. Je voyais des démons partout, en eux, autour d'eux, sautant de l'un à l'autre, échangeant leur place ou se regroupant. À chaque poignée de main, je flairais l'emprise. Dans chaque sourire, je voyais un piège, un sort, un envoûtement. À chaque transaction, ils se faisaient posséder. Je les dévisageais, assis en grappe ou à l'écart au téléphone. Je ne connaissais pas leur avenir, ni leur passé, ni même leur présent. Mais je sentais s'ils étaient squattés ou pas. Illusion, influence des évangiles, reflet de ma situation. Je ne savais plus si le sang de Jésus me montait à la tête ou si c'était le diable qui se moquait de moi. J'avais beau me concentrer sur des détails matériels, fixer les attachés-caisses, les costumes à rayures grises des Japonais en séminaire jurant avec le débraillé des touristes, les porte-bagages électriques qui franchissaient dans un cliquetis les rayons de détecteurs d'explosifs, les hôtesses décolletées derrière les longs comptoirs en tech design, rien n'accrochait. Je n'étais plus de ce monde. Je venais d'avant. J'étais comme en escale dans ce décor d'apparence, la tête ailleurs. Nazareth, Béthanie, Cana, Gethsémani. Je parcourais la Judée, la Galilée, j'entrais dans Jérusalem, je faisais scandale, je prêchais, je guérissais, je virais les démons, j'engueulais mes troupes, je provoquais les prêtres et les Romains, je prédisais ma mort avec une telle insistance qu'ils finissaient par me tuer. Je ressuscitais, je renaissais chez Marc, Luc ou Jean, c'était reparti pour un tour. Au bout d'un moment, j'ai rebranché mon téléphone. J'avais un message de Kim. Sa cheville allait toujours très bien, elle avait digéré le choc et me demandait d'excuser sa réaction de fuite. « Si vraiment j'étais ce qu'on m'avait dit, ajoutait-elle, il fallait que je la rappelle très vite. Je ne pouvais pas rester comme ça. » Je me suis remis sur boîte vocale. Je n'avais pas envie d'entendre une chrétienne me parler du Christ, me faire la morale ou me donner des conseils. J'ai sorti de mon sac à dos les livres que j'avais piqués en route. « Jésus, l'épreuve de l'imposture », le Nouveau Testament en 40 mensonges. Et je me suis plongé dans la négation de mes origines avec un effort d'impartialité, une curiosité malsaine, presque un sentiment de revanche. Dans son Jésus, le chimiste italien Guido Ponzo donnait la recette de l'image thermonucléaire qu'il affirmait avoir réalisée dans sa cuisine sur un vieux drap de lin avec des ingrédients disponibles au Moyen-Âge, oxyde de fer, bleu outre-mer, jaune d'arsenic, rose de garance et charbon de bois, le tout appliqué par des trempes. Quant aux marques de sang, il suffisait de fouetter n'importe quel clochard et de lui enfoncer des clous dans les extrémités, on le roulait dans le drapin et on obtenait le linceul de Turin. Saupoudré de quelques pollens israéliens et servait chaud à la crédulité humaine. J'imaginais que j'étais le descendant de ce clochard et mes poings se serraient de colère. Si une secte avait commis cette atrocité, les pouvoirs que je détenais venaient de Satan. À 12h30, le docteur Entridge est arrivé. Chemise à manches courtes, jean blanc, casquette. Ses lunettes carrées, son air tendu et les fiches débordant de ses poches faisaient de sa tenue de Mickey un déguisement obligé, une concession au week-end. Il a tout de suite vu l'état dans lequel je me trouvais et m'a proposé de monter me relaxer dans sa suite, un grand volume glacé plongeant sur Central Park. Je ne me souviens plus de ses arguments, mais son écoute et sa conviction m'ont remis les idées en place. Un petit coup de paradis ? Je repousse le jeune type qui m'a abordé avec un air de routard, ses doses de crack fixées dans son dépliant de Manhattan. Pour échapper aux tentations qui m'assaillent à chaque pas sur le sentier, casser la gueule au dealer, imposer les mains aux shootés en manque, je rejoins la chaussée goudronnée où les amoureux se promènent en calèche. Un jour de pluie, l'an dernier, j'en avais loué une pour aller de Columbus Circle au Boathouse. Je revois Emma me caresser sous le plaid à carreaux. J'éprouve soudain une nostalgie terrible, qui n'est même plus un désir en creux, le poids de ce bonheur avide que je traîne partout en solitaire, mais le regret du temps où j'avais le droit de n'être qu'un homme, où je n'étais l'héritier de rien, le représentant de personne, où je pouvais aimer tranquille une femme unique en me foutant du reste du monde. Finalement, la vision des calèches m'est plus pénible que celle des épaves et des revendeurs. Sur eux, encore, j'arrive à faire l'impasse. Je regagne le sous-bois. Après m'être paumé dans les allées en boucle, avoir tourné un petit moment du zoo à Ship Meadow, je repère le lac derrière la fontaine de Bethesda. Dans une clairière déserte, un ours en peluche manchot gît au sommet d'une corbeille à papier. Je m'approche, regarde la mousse qui s'échappe du moignon. Je me demande qui a pu lui arracher le bras. Un enfant sadique, un chien, deux nounous se disputant la peluche volée par l'un de leurs mômes. À quelques pas de la corbeille, un érable est en train de mourir. Au milieu des feuillages débordants de ses voisins, il se fait l'automne pour lui tout seul. Ses feuilles desséchées pendouillent, brunes et grises, d'autres se détachent, racornies, tombent autour de moi. Les plus hautes branches sont déjà nues. Sur le tronc est clouée une pancarte. Cet arbre malade sera prochainement abattu pour la sécurité et l'agrément des promeneurs. Merci de respecter la nature. Je me retourne, le cœur battant, vérifie que personne ne me voit. Après tout, le psychiatre m'a dit de ne plus rien faire pour les gens. Il n'a pas parlé des arbres. Je respire profondément, enlace le tronc et demande à l'érable de respecter le secret défense. Je vais essayer de le sauver. S'il veut bien, à tous les deux, on va réparer le coup du figuier stérile. Cette injustice de Jésus qui me poursuit me travaille comme un remords vivant. Le ventre pressé contre l'écorce, j'essaie de visualiser la circulation de la sève, de la remettre en route, d'imaginer des bourgeons, des feuilles qui grandissent, des fleurs. Je prononce à mi-voix « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il sera guéri. » Un picotement sous la nuque se répand dans mes épaules, envahit mes veines avec un dégagement de chaleur, descend le long des bras, gagne mes mains, puis je sens une espèce de reflux lent et froid, comme une transfusion de sève. Mon corps se met à trembler, on dirait que toutes mes forces m'abandonnent pour que j'accueille une autre énergie, une légèreté glacée qui me remplit d'une joie complètement neuve. Je m'arrache soudain du tronc. J'ai reçu un choc électrique, une décharge de courant qui me laisse groggy, pantelant, oppressé par la séparation, l'impression d'arrachement. Je titube, secoué par des spasmes, je reprends mon souffle en m'asseyant dans l'herbe. Je suis en nage. Ma sueur coule comme des larmes. Un mélange de tristesse totale et de bonheur à l'état pur. Puis les tremblements s'espacent, ma respiration redevient normale. Je me laisse aller en arrière, la tête dans les feuilles mortes qui craquent sous mes oreilles. Peu à peu, l'exaltation bascule dans un sentiment de solitude à crever, un écœurement, une déception, un genre de honte. Ce que racontent les types au comptoir du Walnuts quand ils parlent femmes entre deux bières. ce coup de cafard après l'amour qu'ils ont tous l'air de trouver normal et que je n'ai jamais connu, ce besoin morose d'être ailleurs là où moi je n'éprouvais que l'envie de remettre ça. Est-ce l'échange d'énergie que je viens d'avoir avec cet érable en voulant le sauver, alors que les êtres humains que j'ai guéris ne m'ont rien donné? Est-ce leur ingratitude qui m'atteint par contraste? Peut-être que Jésus a ressenti la même chose devant la réaction des gens qui oublient, qui doutent, rejettent le miracle après coup. C'est pour ça qu'il était si souvent de mauvais poil, agressif envers ses obligés, qu'il traitait ses disciples de crétins, de faux culs, de traîtres en puissance, et que parfois il se vengeait sur les arbres. Je me relève, regarde l'érable qui n'a pas l'air d'aller mieux. Le veut-il d'ailleurs? Un blessé, un aveugle, un mort violent rêve de redevenir comme avant, c'est évident, mais un arbre. On dit qu'ils sentent leur fin longtemps à l'avance. Vieillesse ou maladie, sans doute avait-il programmé son décès après avoir répandu ses pollens autour de lui au printemps, et je ne lui ai pas demandé son avis. Voilà que de nouveau je me sens coupable. Je n'ai pas à forcer la nature, même si j'en ai les moyens. Qui suis-je pour décider ce qui est bon pour les autres ? L'humilité. Personne ne m'en parlera de l'humilité, ni les psys avec leur égo thérapeutique, ni les politiciens qui s'intéressent évidemment plus à mes pouvoirs qu'à mes scrupules. Je caresse l'érable, lui demande pardon, lui rappelle qu'il est libre, il n'est pas obligé de revivre uniquement pour me faire plaisir. Ok, à lui de voir. Je lui tapote l'écorce, tourne les talons et reprends le chemin du restaurant. J'ai quand même franchi un sacré pas depuis ce matin, grâce au docteur Entridge. Je ne doute plus, je m'interroge. La question n'est pas de savoir d'où vient le don que j'ai reçu, mais ce que j'ai le droit d'en faire.